femme de ce travail.
Bonjour à toutes et à tous. Après cette première partie de culte qui était enrichissante pour le Seigneur, parce que nous sommes venus offrir, n'est-ce pas? J'aimerais nous rappeler que la vie chrétienne est souvent comparée à une course, non pas un sprint, mais un marathon. Il faut tenir ferme, il faut, parfois on dit cracher ses poumons, mais il faut y aller quand même. Hein? Pardon. Il y a 2 ans de cela, nous avons été et nous sommes toujours confrontés à un virus inconnu. Et je me souviendrai de cette parole du président de la République qui a dit nous sommes en guerre. Et qui est plus en guerre que nous, chrétiens, enfants de Dieu. Et ça, c'est tous les jours. Nous avons un adversaire qui est là et qui ne lâche pas prise. Et parfois, c'est, j'ai envie de dire, il n'a pas de RTT, il n'a pas de congé payé, il ne connaît pas de jour de vacances. Contrairement à nous, où nous avons besoin de détente, nous avons besoin de prendre du temps pour nous et on est toujours fatigué de toute façon. Hein? Mais même si nous sommes en vacances ou en détente, ce qu'il faut penser, c'est que nous sommes en guerre. Et face à la guerre, face aux géants devant nous, et parfois nos géants ont plusieurs noms, c'est une addiction, c'est nous-mêmes, c'est notre mauvais caractère, c'est plein de choses qui nous envahissent et qui nous empêchent d'avancer. Et on a du mal à s'en débarrasser, n'est-ce pas? Et chacun ici connaît son géant ou ses géants. Et le mot d'ordre, en tout cas pour l'Église et pour chacun de nous en ce jour, et pour tous les jours, doit être même combattre, résister, pas mourir. N'est-ce pas? Certainement à l'école du dimanche, on vous a appris l'histoire de David et de Goliath. Et si nos monitrices ne l'ont pas fait, il faut les virer. N'est-ce pas? Parce que tout le monde est passé par là. C'est l'histoire de ce petit, soi-disant, contre le grand. Vous imaginez quelqu'un de 3 mètres, c'est la hauteur du plafond. Quand vous le voyez, vous faites quoi? La meilleure défense, c'est la fuite. Mais non, mais nous allons apprendre aujourd'hui qu'il faut résister, qu'il faut combattre. On va faire quand même un peu d'histoire. 1 Samuel, chapitre 16. Avant d'arriver au chapitre 17, on ne va pas lire tous les textes parce qu'on en serait là encore à 14 heures. 1 Samuel chapitre 16, le juge Samuel est envoyé à partir du verset 11. Je n'ai pas donné ce texte, mais je l'ai dit. Il est envoyé auprès d'Isaïe, un bethléémite, pour oindre un nouveau roi en lieu et place de Saül, parce que Dieu l'a rejeté. Et on peut se demander, est-ce que Dieu peut rejeter quelqu'un? Preuve en est. Dieu l'a rejeté pour désobéissance. Et Isaïe va faire passer tous ses fils devant le prophète et juge Samuel. Et à chaque fois, Dieu va dire, c'est pas lui. C'est pas lui. Et ce texte nous apprend une leçon. C'est l'une des premières leçons que nous allons tirer, parce que tout au long nous allons en tirer. Attention au regard que nous posons sur les autres. Et parfois ces regards sont méprisants. Qui est un tel? Et qu'est-ce qu'il a en plus que moi? Vous me suivez? Vous allez comprendre tout à l'heure, parce que le texte dit, Samuel voit Eliab et il dit, c'est certainement lui parce qu'il est beau, il est grand. On peut être beau, grand, beau gosse, et puis c'est pas lui. Dieu dit, non, c'est pas lui, non, c'est pas lui. Et 7 fils, non, c'est pas lui. Et qu'est-ce que nous-mêmes nous apprenons de la Bible de, sur David à partir du verset 12 et 18? Il est dit que David, qui était considéré comme le petit, et je suis content que notre frère le grand n'est pas là ce matin, au verset 12 du chapitre 16, il est dit, c'est le petit, mais il garde les moutons. Mais néanmoins, il est dit, il était roux, avec de beaux yeux et une bonne apparence. Ça, c'est David. Et au verset 18, alors là, c'est le gendre que toute belle-mère aurait souhaité avoir. Voici que j'ai vu un fils d'Isaïe de Bethléem qui s'est joué. C'est aussi un vaillant héros, un guerrier, parlant bien, un bel homme, et l'Éternel est avec lui. Retenez la dernière chose, l'Éternel est avec lui. Ce qui n'est pas dit d'Eliab, et ce qui n'était plus dit de Saül. Est-ce que Dieu peut dire ça de toi ou de moi? À bien regarder, ça chacun de nous de répondre, n'est-ce pas? Il ne suffit pas de dire je suis chrétien et puis basta. Est-ce que l'Éternel Dieu est encore avec toi? Est-ce que tu as la conduite qui te permet de dire l'Éternel est avec moi? Je poursuis. Quelle est donc mon attitude face à un géant? Parce que mon attitude tous les jours dépendra de mon aptitude à me relever, à combattre, à rester debout. Et on parle de résilience. Quand je tombe, est-ce que je reste en bas ou bien je me bats pour me relever? Et c'est ça la vie chrétienne, hein? Un combat de tous les jours où je ne dois pas garder la tête dans le sable, dans la boue, dans la poussière, mais je dois me battre pour me relever. Chapitre 17 donc, la guerre est déclarée entre l'armée philistine, les pires ennemis d'Israël et Israël même. Et au verset 4, chapitre 17, je fais un résumé. Il est dit un porte-parole. C'est une version où un guerrier, une amour à glace, un guerrier, un mastodonte, quelqu'un qui vient, il se présente et il défie l'armée du Dieu vivant. Il propose un combat plutôt déloyal entre un soldat adverse et lui. Et l'armée du vaincu sera esclave et puis point bas, point final. C'est non négociable. Vous aurez été là, vous aurez fait quoi? Je me souviens quand j'étais jeune, on sortait en groupe et quand il faisait noir, on se mettait au milieu. Jamais devant, jamais derrière. Au milieu parce qu'on était protégé devant, protégé derrière. Et dans l'armée israélite, malheureusement, c'est ce qui se passe. Y compris le roi Saül, le chef d'armée Abner, tous se cachent parce qu'il y a un grand bonhomme là et puis il défie et puis on a peur et c'est la tremblote. C'est honteux, hein? Imaginez quelqu'un qui rentre ce matin avec mitraillette en main et puis il dit, c'est qui le chef ici? On est où là? Mais au verset 16, la situation se complique. Il est dit deux fois par jour, pendant 40 jours, faites le calcul, les matheux là, Goliath se présente devant l'armée. 80 fois. C'est lassant hein, de voir la même tête. C'est lassant d'avoir la même réaction, mais c'est tous les jours. Inlassablement, notre adversaire nous persécute. Et personne, dit la Bible, personne pour relever le défi. Tout le monde tremble. Dieu cherche un homme qui se tienne sur la brèche. Goliath suscitait la crainte, la peur. Imaginez pareille situation, et je suppose que vous l'avez vécu ou vous le vivez au travail. Quelqu'un veut votre peau. Vous êtes malmené par un ou des collègues ou même par le patron. Et vous avez constamment la tête sous l'eau. Vous êtes persécuté. Et vous passez votre temps à pleurer et puis tous les matins, vous avez la boule au ventre pour aller au travail parce que vous allez rencontrer un tel. Tous les matins, vous vous réveillez et puis vous dites, mince alors. Et le pire, c'est qu'au travail, il n'y a personne pour intervenir. Personne n'entend, personne n'a vu, personne ne sait. Et puis, on se dit après tout, c'est ton problème. Débrouille-toi, tu as une langue. Hein. C'est pas ça? Notre société est de plus en plus atteinte, je dirais, de gens malades, de gens touchés par le syndrome du stress. On les voit déambuler dans les rues, on se dit, oula, un tel n'est pas tout seul. Vous avez entendu le dernier single de Stromae? Il dit qu'il y a plein de gens dans sa tête. Et on le pousse au suicide. Et parfois, on regarde les gens déambuler, on se dit, oula, il n'est pas tout seul. C'est triste, hein, cette société-là. Mais tout le monde tombe dans presque, tout le monde dans une sorte de burn-out où il faut travailler plus pour gagner des cacahuètes. Mais c'est notre société. Pas un jour ne passe sans qu'on ne parle de pouvoir d'achat, de hausse des prix par là, et puis la société s'arrache les cheveux. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec un chèque de 100 euros? Mais ça dépend de quel parti vous êtes, parce qu'il y a un parti qui a dit c'est suffisant. L'Ecclésiaste chapitre 7 verset 1 disait le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Et il nous arrive de dire parfois à quoi bon vivre, à quoi bon travailler, et pour qui et pourquoi. Ce n'est pas une invitation au suicide. Mais l'Ecclésiaste dit plus tard, au verset 10, « Ne dis pas d'où vient que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux-ci, car la question ne proviendrait pas de la sagesse. Ce n'est pas sage de dire « c'était meilleur avant parce que ce qui existe aujourd'hui a déjà existé. » Et nous n'avons pas vu le pire. Il y a un temps pour tout, c'est vrai, et Israël avait connu mieux, où Israël sortait, rentrait victorieux et on dansait. Mais là, c'est la panique. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Pardon. Et David arrive sur les lieux, et là nous arrivons au chapitre 17, verset 17. Isaïe avait dit à son fils David, Isaïe, 1 Samuel 17, « Prends pour tes frères cet éphah de grains rôtis et ses 10 pains, et porte-les vite à tes frères sur le champ. Tu apporteras aussi 10 fromages au chef de leur milieu. Tu verras si tes frères se portent bien et tu prendras un gage de leur part. » L'homme ne vit pas seulement de pain, n'est-ce pas? Il faut aussi du fromage. Parce que manger, boire, vivre, se reposer, c'est essentiel pour la vie. Et Isaïe veut prendre note de, il dit, cette guerre a assez duré. Je ne comprends pas pourquoi Israël est là depuis 40 ans face à une armée alors que d'habitude ça marche. Verset 18. Tu les apporteras aussi, pardon, tu verras si tes frères se portent bien et tu prendras un gage de leur part. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Hélah et font la guerre aux Philistins. Tu parles. Ils font la guerre. Ils se cachent. Et ça nous arrive de battre en retraite dans un combat. Quand on veut pas se battre, qu'est-ce qu'on fait? On fait la politique de l'autruche. La tête dans le sable, c'est pas mon combat. Et puis j'ai rien vu, j'ai rien entendu. David se leva de bon matin, il obéit à son père, il remit le troupeau à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe lui avait ordonné. Et nous voyons David arriver là sur le terrain et il découvre ce spectacle triste. Mais il s'interroge, il dit, mais c'est qui lui là? Mais qu'est-ce qui se passe ici? On est où là? Et l'armée du Dieu vivant, de l'autre côté, à tête de tremblote. J'ai envie de dire, c'est de l'ironisme, disait quelqu'un. Il y a de quoi rire, parce que l'armée d'Israël possède de vaillants soldats. Et quand on va lire les textes, il va dire, un seul homme transperçait 300 auprès de David, Shama. Il balayait des champs de lentilles, il y a lui tout seul. Et donc, on ne comprend pas qu'un seul homme puisse terrasser toute une armée. David n'en revient pas. Il se dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Quand moi, je peux tenir un ours ou un lion et puis libérer une brebis, tous ces vaillants bonhommes tremblent. Il dit, c'est pas possible, c'est un incirconcis, un païen qui est là, et il a insulté l'armée du Dieu vivant. Quand quelqu'un vous insulte, vous faites quoi? Vous encaissez, vous pleurez, ou bien vous vous défendez? Vous êtes qui? Non, mais vous êtes qui? Il suffit pas de dire je suis enfant de Dieu, je suis prince, je suis princesse du Seigneur, n'est-ce pas? Alors basta mon vieux, et puis va ailleurs, va là-bas. Enfin, ce qu'on dit, wesh. Parce que ce que Dieu fait dans ma vie, personne n'a le droit de détruire, pas même Satan, mon ennemi, mon adversaire, parce que je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Ah. Est-ce que souvent j'agis en vainqueur? Je fonctionne comme un vainqueur. Je me convainc que je suis vainqueur. Et je bats en retraite. Il se trouve que David n'avait pas forcément intérêt à se trouver sur le terrain, mais arrivé là, il voit la situation, il est scandalisé. Et puis, ça lui faisait une sortie. Il était passé de berger à chauffeur-livreur. C'est pas le top, mais c'est quand même une petite promotion. Il arrive là sur le terrain et il constate que ses frères et puis toute l'armée est menacée d'être esclave. Et c'est quoi ça? On sort de l'esclavage en Égypte, on va encore retourner en esclavage? On vient de parler il y a quelques temps, il y a 2 mois de l'esclavage. Mais essayons de retourner à ce regard que nous posons sur les uns et les autres. Il y a le regard méprisant, mais il y a le regard de Goliath sur l'armée d'Israël. Vous êtes les chiens de Saül, dit-il. Vous êtes des bons à rien. Et quand il voit David, il dit, vous m'envoyez un enfant. David regarde l'armée israélite et il dit, mais c'est quoi ça? Une bande de frémards. Et David regarde Goliath et puis il dit, mais c'est quoi ce païen? C'est un circoncis, il vaut rien. David ne voit pas Goliath. Il voit quelqu'un de méprisable qui va descendre, il va lui mettre la tête au carré. Et c'est le cas de le dire. Parce qu'il veut nous rendre esclaves. Il veut nous martyriser. L'être humain, pour ne pas dire le diable, aime à nous maintenir dans la culpabilité. Et ça a commencé depuis la Genèse. Et nous aimons malheureusement nous laisser maintenir là dans cette peur, dans cette condition-là. C'est qui cet incirconcis-là? Pour mépriser l'armée du Dieu vivant. Et David n'était pas si petit que ça. On dit qu'il était guerrier. Il avait de la force, c'était un combattant. D'ailleurs, il va être un héros par la suite. Il va sortir et il va rentrer à la tête de son armée. Mais le mépris ne vient pas seulement de Goliath. Le mépris souvent se trouve chez nous, dans notre famille, dans nos communautés. Allô? On peut considérer que quelqu'un de l'extérieur nous méprise et puis on dit c'est rien, je le méprise. Mais quand cela vient de quelqu'un de notre famille, quelqu'un de notre entourage, un ami. Et d'ailleurs, David le dit, je ne sais plus quel psaume 41, il dit, c'est pas un étranger hein, qui se tourne vers moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai mangé, j'ai bu. Vous regardez versets 30 à 31, je vous le laisse lire, l'attitude d'Eliab à l'égard de son propre frère. C'est son dernier frère. N'a-t-on pas l'habitude de dire les derniers sont régatés? Eliab ne régate pas. Et parfois on se dit, mais le pire c'est que c'est un membre de ma famille qui me fait ça. Qui dit ça de moi. Eliab ne nous rappelle-t-il pas quelqu'un? Il se mit dans une telle colère. Un texte dit, il s'enflamma de colère. La colère est considérée comme un feu brûlant, la colère divine. Mais quand quelqu'un se met en colère contre vous, vous le voyez casser des choses. J'ai vu ça à côté de chez moi, en Martinique. Les deux gars prêts à se battre. Un a un chien, comment on appelle ce chien? Le Goumastok là, Rottweiler. Et l'autre a une batte de baseball. L'un fait du judo, l'un vigile Mastok. Et les deux essayent de s'attirer, les deux ont fait classe ensemble. Ils sont devenus ennemis. Et je me souviens d'être allé et j'ai essayé de tenir le bout du resto. Deux jours après, il est venu, il m'a dit, il me raconte l'histoire. Et j'ai dit, mais j'étais là, je t'ai dit, il m'a dit, il ne m'a jamais vu. Vous savez, la colère peut nous rendre aveugles. Hein? Dieu dit dans sa parole, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Or, les plus graves blessures sont verbales, n'est-ce pas? Eliab insulte son petit frère. Il le traite de prétentieux. Lisez ce passage, hein? Vous le connaissez. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu fais ici, petit prétentieux? Tu es venu rouler tes mécaniques ici, il n'y a pas de place pour toi. Il n'y a pas de place pour toi ici et tu n'as pas vu que c'est une affaire de grande personne? Et il fait comprendre à David qu'il est moins que rien. Un petit prétentieux, un petit morveux, un petit va-nu-pied. Et tu veux te faire remarquer. Si je n'ai pas réussi à faire ça, si Saül se cache, si Abner se cache, des grands guerriers, c'est toi qui vas réussir. Et il fait comprendre à, la, et, il fait comprendre à David d'aller un peu plus loin jouer, quoi. Et David te dit, mais qu'est-ce que j'ai dit de grave? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais on voit rien à faire. Et puis il dit, pas à ma main, va là-bas toi. Et il s'adresse à d'autres. Et parfois, on se dit, mais j'ai bien envie de garder le silence. Parce que le silence parfois est synonyme de mépris, mais ce n'est pas toujours le cas. Faut-il répondre? Faut-il se taire? Faut-il se défendre? Faut-il dire à l'autre? Tu ne veux pas une réponse? Et ça remet davantage en colère. Quand nous sommes attaqués à gauche et à droite, qu'est-ce qu'on fait? On prie le Seigneur, on se confie dans le Seigneur, ou bien on pleure. Mm-hmm. Et je connais des gens qui ont passé plus de temps à pleurer, à gémir, à friser la dépression, voire la déprime, dépression, plutôt que de réagir. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas ce que Dieu a fait de toi. Si tu es prince et princesse, relève-toi. Et dis non, c'est comme David. Il a défié l'armée du Dieu vivant. Tu as insulté l'enfant du Seigneur. Je suis prince et princesse, enfant de Dieu. Non, non frère, non. Va là-bas. Et Dieu de nous rappeler que les paroles parfois sont des flèches enflammées du malin. Et parfois nous avons des paroles de malédiction que nous prononçons et Loin de les accepter, de les encaisser, nous devons les détruire. Amen. Parce que nous allons nous laisser enfouir dans le sol, nous rendre encore plus insignifiants. C'est parce que tu ne vaux rien. Vous ne valez rien? Non, honnêtement, à bien regarder, vous ne valez rien? Vous êtes béni de toutes sortes de bénédictions, vous ne valez rien? Et vous laissez quelqu'un vous le dire? C'est pas normal. Et David estime que si c'est l'armée du Seigneur, l'armée du Dieu vivant, cet incirconcis, ce païen, il n'a pas sa place. Et donc ça peut durer longtemps, longtemps. Et l'attitude de David, c'est d'abord la surprise des propos de son frère. Et il fait comprendre à son frère, ça ne vaut pas le coup, je perds du temps, il y a un combat à livrer. Et puisqu'il ne veut pas traiter son frère de poltron, d'incapable, il préfère défier David, Goliath. Garder le silence n'est pas toujours méprisant. Et donc, aujourd'hui, on préfère avoir affaire à des non-chrétiens qu'avoir affaire à des chrétiens. Parce qu'on se dit, au moins, ils me traitent correctement. Et puis, au moins, je peux pardonner parce que je me dis, c'est pas. Il ne sait pas, tu penses? Mais ce n'est pas lui. Et très souvent, nous nous trompons l'adversaire. Ce n'est pas lui qu'il faut voir, c'est l'ennemi derrière. Et nous nous trompons de combat. J'ai dit, c'était un combat, c'était une course, mais c'était un marathon. Et tous les jours, David, Goliath va venir et il va mépriser l'armée. Et j'ai envie de dire, mais plus on avance dans la vie, plus les gens nous forment et nous déforment. Merci Seigneur, parce que le Saint-Esprit nous transforme. Amen. Mais si on se reste déformé, à quel moment on réagit? Jusqu'à quand vas-tu laisser les gens te dire que ton Dieu ne fait rien pour toi? Dire que ce que Dieu ne te dira peut-être jamais. Tu es un bon à rien, tu es ceci, tu es cela, tu... Eliab, si on essaye de considérer sa réaction, est-ce qu'il voulait vraiment protéger son petit frère? Je pense que Eliab n'exprime que de la jalousie envers son frère. Il est en panne de succès. Parce que s'il vit le rejet au profit de son petit frère, il ne peut que le jalouser. La jalousie existe dans les familles ou pas? Même dans nos foyers. Et oui, le petit, il est promu, il a son bac, il a tout, il réussit partout dans la vie et c'est à lui encore qu'on donne la voiture. Rien que pour une voiture, hein, on peut détruire la réputation de quelqu'un. Hein. Mais c'est ton frère, c'est ta soeur. C'est le petit chouchou. C'est le préféré. Et si on me dit que ça n'existe pas, je vous dirais, mais regardez Joseph, regardez le frère du fils prodigue. Il dit, je vis avec toi depuis nan, et jamais tu m'as donné quoi que ce soit. La jalousie existe. Et si je me souviens bien, quand Jésus comparait devant Pilate, il est dit que Pilate savait que c'était par jalousie. Mais il va le critiquer quand même, le condamner quand même. La jalousie, c'est quelque chose de très malsain. Et David, qui avait entendu les propos de son frère, dit, mais je l'excuse parce que il n'est pas le seul et tout le monde peut avoir des faiblesses. N'est-ce pas? Ça peut arriver une fois, mais tout le temps. À quel moment tu prends la victoire? À quel moment tu te dis, il faut que je change? C'est pourquoi j'ai parlé au début de caractère qui peut être un géant. On dit, c'est comme ça je suis, c'est comme ça je parle, et puis c'est ma mentalité, c'est ma manière de voir, et puis je suis le chef. Basta. À quel moment tu te dis, je me cache dans le Seigneur parce que je suis caché en Christ, caché en Dieu. Et c'est Dieu qui prend le dessus sur moi. Et à action, malheureusement parfois, et ou bien il faut réaction. David, il va laisser son frère et puis il va passer à autre chose. Est-ce que dans notre vie de tous les jours, de vie chrétienne, nous voulons faire des choses ordinaires, voire extraordinaires? Parce que nous en sommes capables. Dieu a dit, Jésus a dit, vous ferez des choses beaucoup plus grandes que moi. J'y crois ou j'y crois pas? Si j'y crois pas, eh bien, je resterai à me morfondre tous les jours et puis à me dire, Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, augmente ma foi, tu vois. Un peu comme cette sœur qui dit, Seigneur, tu vois la toile d'araignée, tu vois. Et quelqu'un a prié après, a dit, Seigneur, tue l'araignée. Et si c'est la toile d'araignée qui te fait peur, tue l'araignée, c'est l'araignée qui fait l'étoile. Seigneur, je vois ce qu'il faut faire, mais je refuse parce que. Or, le Seigneur Jésus nous dit, avec un grain de sénévé comme foi, tout petit, tu peux faire de grandes choses. David n'avait pas besoin d'une armée avec lui. David dit, certains c'est à leur char, d'autres c'est à leur chevaux, mais nous c'est au nom de l'Éternel que nous combattons. Si tu as Dieu avec toi, qui sera contre toi? Si tu as Dieu avec toi, tu es vainqueur, tu es plus que vainqueur. Oh, il nous arrive de passer plus de temps à nous morfondre, à fuir pour ne pas répondre, à fuir pour ne pas combattre, à fuir pour ne pas blesser. Alors qu'on a blessé. Je ne dis pas qu'il faut rendre le mal par le mal. Mais le Seigneur dit, réponds à l'insensé de peur qu'il ne se croit sage. Et puis, ne réponds pas à l'insensé de peur qu'il... Ça vaut pas le coup. Nous avons des combats au quotidien et il nous faut de la rigueur, il nous faut de la persévérance, il nous faut surtout de l'obéissance. David avait obéi à son père. Emmène de quoi manger, de quoi vivre à tes frères. Aujourd'hui, à qui nous obéissons? Aux frères, au pasteur, à la sœur ou à Dieu? Et donc, nous avons tous été à l'école et quand on remettait les bulletins scolaires, alors qu'on avait beaucoup bossé, le professeur principal mettait en bas de page, peu mieux fait. Je dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire encore pour... peu mieux faire. C'est vrai qu'on peut toujours mieux faire. Mais à quel moment tu t'arrêtes pour dire, je vais me relever et puis je vais me battre. Le Seigneur Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si tu essaies de te battre tout seul, tu ne vas pas arriver. La Bible dit, soumettez-vous au Seigneur et résistez au diable. Il n'a pas dit l'inverse. Tu ne peux pas résister au diable si tu n'es pas soumis au Seigneur. Et donc, si dans ma vie, je veux avancer en vainqueur, je dois avoir les yeux constamment fixés sur Jésus. Avec peu de foi, je peux terrasser un géant. David a pris quoi? Un caillou. Et paf! Le géant n'a pas vu arriver le caillou, mais il a vu arriver le sol. Terrassé. Et l'ennemi de nos âmes, quelle que soit la personne qu'il utilise, quel que soit le fait qu'il utilise, peut chercher à nous user sans savoir que son jour vient. Et le jour sera terrible. La Bible dit que l'Éternel est au milieu de nous comme un héros qui sauve. David va passer de berger à héros. Parce que quand tu es dans le plan de Dieu, tu vas en haut.
Amen.
Pardon. Et donc, le Seigneur ne nous invite pas à, et d'ailleurs il nous le dit, de considérer les autres comme étant au-dessus de nous. Mais quand tu prends le temps de mépriser l'autre en bas, ça veut dire que tu es en haut. C'est péché? Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu de considérer les autres en dessous? Non. Si je suis petit, je ne suis pas grand. Si je suis petit, je ne vois pas ce qui est en haut. C'est ce que je disais à un frère ce matin. Mais quand je suis grand, je me mets encore debout et je m'en moque de ceux qui sont petits. Tu n'avais qu'à être plus grand. Mais ce n'est pas spirituel. La Bible m'invite à considérer les autres. Et Goliath n'a pas vu, David n'a pas vu la grande armure devant lui. Il a vu l'éternel Dieu qui combat avec lui. Est-ce que l'éternel Dieu combat avec toi et pour toi? Ça, c'est à toi de te faire cette conviction-là, d'avoir cette conviction. David, contrairement à l'armée d'Israël, ne voyait pas Goliath. Il avait les yeux fixés sur son chef. Et si Dieu nous a délivrés par le passé, il nous délivrera encore, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Saül dit à David, verset 37, chapitre 17? Alors qu'il cherche à savoir c'est qui ce petit, et c'est malhonnête de la part de Saül, parce que ça faisait un moment que David était à son service. À la fin du verset 37, il dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Il lui dit, « Mon petit, je ne peux rien faire pour toi. Tu ne diras pas que je ne t'ai pas averti. » C'est un guerrier en face, et toi tu es petit. Et aujourd'hui, on nous dit, ne cherche pas un combat plus fort que toi. Mais non, il n'est pas plus fort que moi parce que celui qui est avec moi est plus fort. Et quand Dieu décide de bénir un de ses enfants, qui peut s'y opposer? Il dispose, dit la Bible, même favorablement, nos ennemis. Là où on pensait qu'on allait trembler devant un tel, on arrive et puis tout est fait. Je me souviens de cette sœur. Son mari n'était pas chrétien. Il était venu souvent au temple. Et un matin qu'elle priait, comme tous les matins, elle fait sa petite méditation, lui, il est devant la maison, boum, boum, avec sa moto, boum, boum. Et la sœur est sortie et puis lui a dit, « Arrière de moi, Satan !» Il a pris sa moto, il est parti. Et elle craignait toute la journée, mais quand il va rentrer, comment je vais m'excuser? Et il est rentré effectivement, et il a couru pour lui dire, excuse-moi ce matin, mais tu m'avais énervé, tu faisais du bruit. Et je... Il a regardé, il a dit, moi? Mais non! Il n'a jamais fait de bruit avec sa moto, il a pris sa moto, il est parti. C'était pas lui. On peut se tromper l'adversaire. On peut garder l'amertume en vis-à-vis de quelqu'un sans savoir que l'ennemi qui est derrière est vicieux. Méfions-nous des combats que nous menons. Saül, loin de penser que ce petit David prendrait sa place bientôt, lui dit « Va avec la force que Dieu te donne. » Il le propulse en héros. Et parce que David ne va plus retourner derrière les brebis. Il va être héros d'un jour et il va être héros pour toujours. Tu es sauvé pour un jour, mais sauvé pour toujours. L'éternité t'appartient. Tu n'es pas prince d'un jour, princesse d'un jour. Tu es prince et princesse pour toujours en Jésus-Christ. Et Dieu nous invite à rester prince et princesse. Il nous faut être à l'écoute de Dieu, n'est-ce pas? Et il nous faut aussi être à l'heure de Dieu. J'aime à dire chaque chose en son temps, parce que chaque chose a son temps. On peut lutter pendant des heures, des années, pour le salut de nos enfants, pour la conversion d'un époux, etc., pour X choses. Ce n'est pas l'heure de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Chaque chose a son temps. Et avec Dieu, il faut être non seulement à son écoute, mais il faut être dans son heure. Beaucoup plus tôt, David avait été loin pour être roi. Il avait attendu. Et puis, parce qu'il était retourné auprès de ses brebis. Et puis le Seigneur lui dit, maintenant ton heure est venue. Jésus est venu. Pendant 3 ans, il y a eu ce ministère là parmi nous. parmi ceux de son époque. Et puis, il disait à ceux qui voulaient qu'il aille à Jérusalem, vous avez toujours votre heure, mais moi, mon heure n'est pas venue. Et quand c'était le moment, il a dit, maintenant, mon heure est venue. Je vais à Jérusalem. Je vais mourir pour vous. Et je ferai de vous des vaillants héros. Aujourd'hui, qui c'est qui peut enlever ce que Dieu m'a donné? Ça lui a coûté cher. Qui peut me mépriser quand Dieu ne prend pas le temps de me mépriser? Et jusqu'à quand toi tu vas recevoir des autres le mépris, les insultes, alors que Dieu ne ferait jamais ça chez toi? Tu as du prix à mes yeux, dit-il. Et celui qui te touche, va touche. Donc ça veut dire que ça va être son affaire. Laisse-le faire ou remets-le entre les mains du Seigneur. Le moment de Dieu n'est pas le nôtre. On peut gémir comme les Israélites en Égypte. On peut gémir là pendant 40 jours devant Goliath. Mais si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si le Dieu de David est ton Dieu, alors il te délivrera de la main de l'ennemi. N'est-ce pas? Et c'est lui qui dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alors combat le bon combat de la foi. Et ce, tous les jours de ta vie, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais ne cherchons pas à faire l'inverse, à réclamer de l'Éternel d'abord des délices. On veut toujours le bien-être, mais est-ce que le Seigneur est ton bien-être avant tout? Alors que Dieu nous aide et que Dieu nous aide à saisir la promesse. Dieu nous a laissé tellement de promesses dans sa parole. Mais je ne dois pas me battre pour aller les chercher. Je dois juste les saisir. Parce que c'est Satan qui veut m'en priver, mais au nom de Jésus, il est terrassé. Il est déjà terrassé. Et je dois vivre en vainqueur. Et je ne dois pas chercher à aller trouver une autre victoire, puisque la victoire est acquise une fois pour toutes. Amen. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs.